c'est-à-dire l'analyse de la concurrence que font toutes les firmes, les dépenses de marketing, publicitaires, etc. Les activités destinées à affronter l'incertitude, donc améliorer les anticipations, à accroître la réactivité, etc., accumuler de l'information. Donc toutes ces activités sont des activités cognitives qui permettent aux entreprises de maintenir leur position concurrentielle, hein, d'assurer, je dirais, leur croissance un peu plus sûre, mais cela est sans utilité collective. C'est une activité cognitive sans intérêt collectif, hein, qui est intéressant pour l'entreprise, mais qui n'est pas intéressant pour la collectivité. Donc une part importante de l'activité cognitive, en fait, est dissipée. Et dissipée, elle est absorbée par les jeux concurrentiels. Donc, il y a un phénomène, en quelque sorte, d'entropie ou de structure dissipative. De structure dissipative, pour reprendre l'expression de Prigogine, ce qui est pour le moins qui peut sembler bizarre, parce qu'à la limite, on pourrait dire, tiens, structure dissipative, c'est la thermodynamique. Donc, on est dans l'énergétique. On est dans l'énergétique, c'est bizarre d'utiliser une métaphore énergétique pour caractériser un phénomène informationnel. Hein. Mais ce n'est pas bizarre du tout, hein, puisque on sait que la notion d'entropie informationnelle a été calquée sur l'entropie de la thermodynamique. Et donc, il y a une analogie, il y a toujours eu, disons, une espèce de métaphore, les phénomènes physiques, thermodynamiques en particulier, et les phénomènes donc de dissipation informationnelle, je dirais. Donc voilà, donc toutes ces activités cognitives faisées par les entreprises pour leur jeu concurrentiel comme stérile en termes d'utilité collective. Alors on peut en débattre entre économistes, parce qu'on peut dire aussi, oui mais attention, ça permet de maintenir un certain niveau de concurrence, ou ça permet de maintenir un certain niveau d'incitation à des innovations, donc on peut développer des arguments qui font que l'entretien du jeu concurrentiel est une vertu collective, un intérêt collectif. Ça, c'est une chose, mais en tous les cas, en termes de production de biens particuliers, disons. Alors, il existe une autre part, donc deuxième fonction possible de l'activité cognitive, donc l'activité cognitive qui est consacrée à la coordination interne et externe aux entreprises et à la planification. Alors, tout cela repose sur la conception et la gestion de systèmes d'information et de communication, sur la conception et la gestion de chaînes d'offres, hein, puisque vous savez que maintenant, disons, tout se fait au travers de chaînes d'offres, au travers de tout cela se fait également au travers de contrats à long terme. Donc il y a tout un ensemble de techniques, d'outils et donc d'activités cognitives qui sont utilisées pour améliorer la coordination au sein d'une firme, au sein donc d'une unité de production, ou entre unités de production, ou entre entreprises, dans le cadre d'une chaîne d'œuvres ou dans le cadre d'une filière. Cette activité cognitive a une fonction stabilisatrice, hein, elle permet de stabiliser donc les relations, elle permet de mieux encaisser en quelque sorte les à-coups de la conjoncture, de mieux affronter, à la limite de limiter l'incertitude, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de régulation passive. Et là, on est dans une activité négentropique, c'est-à-dire qu'on essaie de stabiliser les choses, hein, donc de maintenir en quelque sorte une structure et de ne pas créer de dissipation entropique. Cognitive, en ce sens que elle peut permettre de diminuer les coûts. Hein, résultant d'une meilleure coordination, d'un meilleur affrontement de l'incertitude, hein, d'une meilleure organisation globale, si la diminution des coûts est répercutée sur les prix, disons, on peut considérer que ce travail cognitif est un travail qui a un intérêt. Troisième type d'activité cognitive, les activités cognitives engagées dans la production. Donc, le travail cognitif est bien sûr engagé dans, pour partie importante, dans la production. Le travail cognitif est nécessaire pour réagir à l'incertitude, pour réagir aux petits aléas. Hein, les petits aléas que l'on trouve donc sur dans un atelier de construction, hein, il y a un produit intermédiaire qui n'est pas le bon, il y a quelqu'un d'absent dans une équipe, la question des questions logistiques ou des questions d'adaptation particulières au goût de certains clients pour certains produits, etc. Donc il y a tout un ensemble dans toute activité productrice, petits aléas. Hein, je dirais, donc des aléas non stratégiques, mais qui viennent perturber le rythme normal, naturel de la capacité, de la compétence pour réagir, pour remettre les choses sur les rails, pour assurer la livraison, etc. etc. À ce niveau-là, disons, en ce qui concerne. Donc, alors, et d'autre part, par ailleurs, il y a des travaux cognitifs qui sont des travaux cognitifs. Par finalité, c'est-à-dire que le sang en particulier, c'est pas des biens à ce moment-là, c'est plutôt dans le domaine des services. Les services qui sont rendus sont des services d'information, de traitement d'information, de traitement de données, hein, qui portent sur de la connaissance, hein, dans le domaine, hein, en particulier, mais pas uniquement, dans le domaine des assurances, disons, le travail sur des données, sur de l'information. La matière première, c'est l'information. Donc là, on est en plein, si vous voulez, dans du cognitif ou de l'informationnel. Alors, dans ce domaine, donc, c'est-à-dire les activités cognitives utilisées dans le processus productif lui-même, au sens strict, on doit introduire une dichotomie entre ce que j'appelle le travail prescrit et encadré, et d'autre part, le travail non prescrit. Alors, vous avez d'un côté, donc, des traitements de données, par exemple, dans le domaine des assurances, qui vont obéir à des algorithmes, à des règles précises, hein, les choses sont codifiées, les protocoles de traitement des dossiers, etc., sont parfaitement définis à l'avance, et donc le travail cognitif est un travail totalement prescrit. Totalement prescrit, et donc là, on peut tomber dans le néo-taylorisme. On peut avoir affaire donc à un travail de traitement de données, ou un travail donc d'information, qui n'est pas prescrit, qui permet donc à l'opérateur, dans le cadre d'une relation avec un client par exemple, là effectivement de s'épanouir, de faire preuve d'imagination, de faire preuve d'une capacité de séduction éventuellement du client, donc d'avoir un travail qui est plus enrichissant et disons où il donne effectivement toute sa mesure. Donc ça c'est un troisième type d'activité cognitive, ou une troisième fonction des activités cognitives, du travail cognitif, donc fonction dans la production. Bon, en général, disons, c'est plutôt positif. Et enfin, dernier point, et le point le plus important, donc, les activités cognitives engagées dans l'innovation. Hein, donc là, nous arrivons à la quatrième fonction du travail cognitif. Donc, le travail cognitif engagé dans l'innovation, au sens large, hein, c'est pas uniquement l'innovation technologique, ça peut être l'innovation technologique, mais ça peut être aussi à modifier l'organisation d'un service, à modifier un argumentaire pour vendre un produit, etc., etc. C'est là que se situe effectivement l'essentiel du problème concernant la relation, je dirais, entre connaissance et produit. Et là, si vous voulez, on doit poser la question de savoir quel est le mode d'organisation de l'activité innovatrice. Parce que, comme je l'ai dit, pour comprendre, pour aller dans le sens d'une réflexion approfondie sur le rôle de la connaissance dans la production, donc il faut passer par l'analyse du procès de production et de la façon donc dont la connaissance s'insère, s'articule, est prise en compte, est utilisée dans le procès de production. Alors là, c'est le procès de production de l'innovation. Bon, comment la connaissance est-elle accumulée ou est-elle exploitée pour créer des choses nouvelles? Il y a deux modèles. Et, disons, dans la littérature des économistes, grosso modo, il n'y a que deux modèles. Premier modèle, le modèle rationnel de la gestion de projet. Et dans le modèle rationnel de la gestion de projet, donc, les activités sont structurées et organisées à partir d'un objectif et d'un programme, donc, de l'avancement du projet de recherche et développement, projet d'innovation, projet de création d'une unité, qui est un modèle, bon, extrêmement répandu. Hein, la gestion de projet, c'est vraiment la mieux partagée dans les entreprises à l'heure actuelle. Et le deuxième modèle, donc, pour faire court et pour par réminiscence un peu, pour faire court, disons que je l'appellerais le modèle de l'apprentissage. Le modèle de l'apprentissage, c'est l'émotion de la connaissance dans le cadre de communautés ou de groupes, d'activités plutôt spontanées, d'activités plus informelles que les activités que l'on trouve dans la gestion de projet, et ce sont des activités donc qui ne font pas l'objet d'encadrement. Il n'y a pas d'encadrement systématique, il n'y a pas d'évaluation systématique. On est, pour utiliser un mot qui était à la mode à une époque, collage. On est du bricolage, qui n'est pas très organisé, mais qui peut être tout aussi très intéressant. Donc nous avons d'un côté un modèle d'innovation qui est le modèle d'innovation avec commandement. Et donc là, la connaissance, le savoir, les savoir-faire, etc., sont mis au service d'un commandement, d'un management. Hein, il y a des contrôles de budget, donc, et tout cela est bien organisé, bien encadré. Bon. Pour certains, c'est ce qui constitue la caractéristique de ce qu'on appelle la société post-industrielle. Prenez un auteur comme Alain Touraine. Pour Touraine, la société post-industrielle, donc, c'est la capacité, le changement. Hein, on dispose de la capacité d'organiser, de structurer et de gérer la recherche et l'innovation. Donc c'est un progrès de la rationalité dans un domaine qui jusque-là n'était pas atteint, en quelque sorte, par une capacité de gestion rationnelle. Le modèle d'apprentissage, donc, c'est le modèle de l'innovation informelle, c'est le modèle de l'innovation souterraine, c'est le modèle de l'innovation à la marge du système. Cela va de l'innovation qu'on appelle en perruque dans les entreprises, hein, le type qui se cache dans un coin pour bricoler un truc nouveau, etc. Donc, cela va de l'informel le plus absolu aux activités contre-culturelles. Aux activités contre-culturelles, hein, ou l'activité instituée. Hein, nous pouvons être en dehors, nous pouvons être institués. Alors il existe une tension entre ces deux modèles, une tension parce que l'un place la connaissance et l'exploitation de la connaissance donc sous le contrôle du commandement capitaliste, et l'autre place la connaissance et l'exploitation de la connaissance, ou l'utilisation de la connaissance, donc, sur des terrains, dans des perspectives, sur des champs qui échappent au contrôle capitaliste. Et cette activité contre-culturelle, ou cette activité informelle ou souterraine, se réclame de son contradictoire avec celle de l'establishment, avec celle de la science officielle, avec celle où on valorise la communication, on valorise le partage, on valorise la créativité, on valorise la liberté, et bien entendu, tout cela, disons, donne à ce travail d'innovation à la marge, hein, lui donne une qualité ou lui donne une sensation, enfin procure à ses acteurs une sensation qu'il ne trouve pas, bien évidemment, dans le travail d'innovation sous commandement capitaliste. Alors, quels sont les champs des places respectives du modèle rationnel et du modèle informel ou de la contre-culture ? Est-ce qu'il existe, disons, une place normale en quelque sorte? Est-ce que l'on peut discuter des places respectives de chacun des deux modèles? Alors, c'est un sujet délicat, mais je ferai deux ou trois remarques. Première remarque, la contre-culture ou l'informel peuvent jouer un rôle d'autant plus important que, premièrement, les moyens à mobiliser, les moyens matériels à mobiliser sont, les moyens matériels ou financiers à mobiliser sont faibles. Hein, donc plus les moyens matériels, plus la contre-culture se manifester. Deuxièmement, la volonté d'échapper à l'emprise du système de la technoscience ou de la science sociale et instituée dans l'entreprise. Donc plus cette volonté d'échapper à cette emprise est forte, plus ou contre-culturelle, disons, a des chances d'être forte. Et troisième remarque, le résultat, l'innovation contre-culturelle, sous-entend donc que le résultat échappe au départ, ou le résultat recherché, pardon, le résultat recherché échappe au départ à l'attention des institutions, donc des organes officiels, de ceux qui sont en. En contrepartie, le potentiel de créativité spontanée qui relève de ce que j'appelle donc le modèle informel, de l'apprentissage ou de la contre-culture, peine à se manifester efficacement à cause, un, de l'emprise des acteurs économiques, deux, des moyens nécessaires, matériels et financiers, et trois, à cause de la question de la